Comme chaque semaine, on vous propose un ouvrage qui a marqué la discipline économique ou les sciences sociales. Aujourd'hui, c'est le traité sur la famille du très libéral Gary Becker que nous allons vous faire découvrir. Bonjour Julien Damon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, professeur associé à Sciences Po Paris et fondateur de la société de conseil Éclair. Alors d'abord, comment présenter Gary Becker en quelques mots, Julien Damon, comme un économiste qui voyait l'économie partout ?
C'est un économiste qui en effet voyait l'économie partout, mais qui était professeur de sociologie à l'université de Chicago. C'est véritablement un économiste puisqu'il est titulaire du prix Nobel d'économie. Si on doit dire quelque chose d'important, c'est qu'il appartient à cette galaxie d'ailleurs d'économistes et de prix Nobel d'économie passés par l'université de Chicago. En un mot, c'est un économiste très libéral. Alors le terme fait que on est voué aux hégémonies ou célébré en la matière, mais il compte parmi les méchants, si on n'aime pas, les prix Nobel d'économie libéraux. Maintenant, si on aime l'économie, on ne peut pas ne pas avoir à un moment une rencontre avec le travail de Gary Becker sur plein de sujets, le capital humain, la lutte contre les discriminations, la légalisation du cannabis, il a fait plein de choses, et sur la question qui va nous occuper, la question de l'économie de la famille.
C'est un libéral, dites-vous, Julien Damon, et c'est en effet une rencontre avec un autre libéral, Milton Friedman, qui a été son professeur, voilà. Qui constitue pour lui une expérience assez déterminante.
Oui, ça a été son directeur de thèse, et Milton Friedman, lui aussi prix Nobel d'économie, lui aussi professeur à Chicago, est l'un des pères fondateurs de cette tradition d'économie à Chicago, investi dans le traitement par les économistes des questions sociales, des questions contemporaines, des questions monétaires. C'est pour cela qu'on a parlé avec Gary Becker, d'ailleurs, de l'impérialisme économiste, enfin, l'impérialisme de l'économie comme science, qui se mêlait de tout, après la psychologie, après la démographie, après la sociologie. Mais, pour le dire de façon peut-être un rien souriante, Gary Becker est certainement un des plus curieux, non pas étrange, mais personnage qui cherchait à s'inspirer de toutes les sciences sociales, pour tenter de décrypter les sujets contemporains. Donc c'est un gentil parmi ceux qui sont généralement présentés comme les méchants. Voilà, je le présente de façon un peu grotesque, mais si on doit caricaturer, c'est ça.
Je précise, Julien Damon, qu'il est né en 1930 et qu'il nous a quittés il y a quelques années, en 2014.
Ans, ouais.
Et au début des années 90, il préside la société du Mont Pèlerin, ouais. Qui est un club de pensée économique ultra-libérale, ouais. Auquel appartient Margaret Thatcher.
Alors, je ne sais pas si Margaret Thatcher y appartenait, mais la société du Mont Pèlerin, en effet, en Suisse, avait été créée à l'initiative de Frédéric Von Hayek, un autre prix Nobel d'économie, lui aussi passé par Chicago, mais vous trouviez des gens très bien dans cette société du Mont Pèlerin, dont Raymond Aron, dont on reparle beaucoup aujourd'hui. Margaret Thatcher a été très influencée par ses auteurs. Elle a certainement participé à des travaux de cette société savante, et Gary Becker, comme nombre d'économistes de haut rang et très libéraux, est passé par ce club, on va dire ça.
Alors le point de départ de Gary Becker dans son traité sur la famille, qui paraît en 1980, c'est que la famille est une entreprise comme les autres. Qu'est-ce que ça implique, Julien Damon ?
Ça implique de ne pas voir le foyer comme une unité, mais de voir tous les gens qui composent le foyer comme des unités, chacun comme des homo economicus. Car Gary Becker et ses compères ont mis en avant et incarnent tout de même cette vision de la rationalité peut-être étriquée du seul intérêt mis en avant pour expliquer les comportements humains. Donc l'idée, c'est plutôt que de voir la famille comme une unité traditionnelle, centre de la société, on va décortiquer au sein de la famille ce que sont les intérêts des uns et des autres pour être en couple, pour se mettre en couple, pour rester en couple, pour se séparer, pour faire des enfants et décider du nombre d'enfants qu'il faudra élever plutôt que d'acheter des voitures ou des voyages. Je fais presque de la citation là de Monsieur Becker, et de voir ce que sera l'investissement éducatif en direction de ces enfants.
Gary Becker qui cherche à expliquer pourquoi la hausse généralisée des revenus dans un pays donné entraîne une baisse de la fécondité, et à cela il répond, eh bien c'est parce que les parents veulent moins d'enfants car ils vont investir dans le capital humain de leurs enfants. Vous avez cité ce terme de capital humain que véritablement Gary Becker a théorisé.
Alors, il n'a pas inventé le mot, mais il est celui auquel on accole le plus souvent la notion
on
de
le doit
capital
Arthur
humain. Entre, je ne sais pas si c'est Pigou, je crois qu'on met un autre auteur qui s'appelle Schultz, mais bon, ça c'est de la bagarre d'experts. En tout état de cause, on associe au nom de Gary Becker, la notion de capital humain. Qu'est-ce que c'est que le capital humain? C'est comme le capital physique ou le capital financier d'un individu. Ce capital humain est constitué de trois choses. C'est l'ensemble de ses savoirs, de ses expériences et de ses compétences. Et en décortiquant tout cela, on permet de regarder ce que sont les contraintes, les décisions, les coûts et avantages de toute décision pour toute personne, notamment dans le contexte du foyer familial, pour investir dans telle ou telle option qui fera augmenter notre capital humain personnel, notre bien-être par ailleurs, ou notre mal-être si on se trompe, et investir dans des enfants. La question que vous me posiez, c'est plus on est riche, moins on fait d'enfants. C'est tout à fait exact. Plus on est riche, moins on divorce par ailleurs parce que c'est un coût plus important. On fait moins d'enfants parce que c'est plus coûteux d'avoir des enfants, mais on investit davantage en eux pour qu'ils réussissent, parce qu'il y a toujours une forme d'altruisme en la matière, et surtout dans la compétition généralisée qu'est le marché, dans toutes ses composantes, marché conjugal, marché économique, on met tout ça au pluriel, pour que les enfants réussissent, il leur faut un niveau éducatif élevé. Et ceci a été transcrit aujourd'hui par la Commission européenne ou tout ce que vous voudrez dans ce que l'on baptise un peu de manière pompeuse la société de la connaissance.
Et c'est en cela que Becker estime que Malthus se trompe lorsqu'il dit que l'augmentation rapide de la population est un obstacle au progrès.
Alors, c'est vrai que pour Malthus, le développement de la population est un frein au développement économique. C'est ce que va chercher à contredire notre camarade Becker en expliquant que une population qui augmente en quantité, mais, et surtout, je cite Becker, en qualité, a un impact très positif sur le développement économique. Aujourd'hui, en termes plus modernes qu'en 1980, quand il publie ce traité ou ses travaux qui datent des années 60, on dirait que l'investissement dans le capital humain et le développement démographique donnent des possibilités d'innovation.
Finalement, l'éducation est un investissement dans le capital humain, tout comme l'achat d'une machine est un investissement dans le capital physique d'une entreprise.
Ah, mais c'est exactement ça, ou l'achat d'actions pour le capital financier. Et la métaphore est parfaite. D'ailleurs, elle est parfaite. On peut la contester. Il y a plein de gens qui contestent Becker. Là, j'ai l'impression de faire du beckerisme. Je fais le néologisme. Mais c'est exactement des métaphores qui sont les siennes, oui.
Et c'est pour cela, cela permet d'expliquer pourquoi les jeunes générations passent de plus en plus de temps à s'instruire, avec cette idée que l'éducation est plus rentable avec l'allongement de la durée de vie.
Oui. L'idée force, c'est que on peut investir dans du capital financier, on peut investir dans du capital physique, on peut investir dans du capital humain. Mais dans des économies qui se dématérialisent toujours davantage, qui passent de plus en plus dans l'économie de service, l'investissement dans le capital humain est l'investissement qui prime. C'est un peu cela que mettent en avant les partisans de cette notion, et Gary Becker en premier lieu.
Dans quel contexte le livre de Gary Becker est-il publié, Julien Damon? C'est un moment où les enfants ne représentent plus une garantie pour l'avenir?
Ah, alors, c'est des sujets
d'évolution. En termes de retraite, notamment.
Oui. Ah, il y a ce sujet des retraites qui est assez fondamental. C'est-à-dire que on faisait beaucoup d'enfants et on continue à en faire dans certains pays du monde. Toujours en développement, qu'on est en faire beaucoup, parce que c'est une sorte d'assurance pour les vieux jours. Alors, ça paraît presque de l'évidence aujourd'hui que de raconter tout cela, mais c'est à la suite de travaux de Becker dans les années 60, 70, et compilé dans son traité de 1981, que l'on a mis en avant cette chose assez fondamentale, qui est que, à mesure de l'enrichissement des populations, on va faire moins d'enfants, et les enfants, de surcroît, puisqu'il y a des systèmes collectifs de retraite, vont eux-mêmes, par la suite, moins investir de temps et d'argent, mais surtout de temps, dans l'existence de leurs parents et grands-parents. Donc ce sont des transformations anthropologiques que l'économiste explique, et qu'il explique plutôt bien. Enfin, il décrit des choses qui sont vraies.
Il y a une autre explication qui est apportée par Becker à la baisse de la fécondité, le soin des enfants qui représente un manque à gagner pour les femmes, un manque à gagner qui augmente en même temps que les salaires féminins.
Oui, alors parmi les changements les plus importants de la famille, il y a les changements juridiques de ce qu'est l'union, de ce qu'est le mariage. Et il y a surtout une autre transformation absolument majeure dans la seconde partie du XXe siècle, c'est l'activité féminine rémunérée sur le marché du travail. Parce que je ne veux pas me faire taper sur les doigts par des copines féministes, les femmes ont toujours travaillé, dans l'univers domestique.
C'est un peu c'est la vision... C'est ce qu'on a montré cette semaine dans notre série, justement, sur les femmes.
Toute cette semaine, voilà. Alors donc, M. Becker vient se glisser à la fin de la série sur les femmes pour évoquer tout cela. Le sujet des inégalités conjugales s'expliquait... Et demeurait à des niveaux élevés parce que dans les choix de conjoint. Vous aviez l'homme qui incarnait le monsieur gagne-pain et madame fait du logis. Madame, à la maison, élevait un nombre relativement élevé d'enfants. Tout ceci s'est totalement transformé, a été particulièrement bousculé aux États-Unis, en France, dans l'Union européenne, avec l'activité féminine, la biactivité, les possibilités pour les femmes de se libérer, si je dis le joug, ça plaira, mais ce serait un peu forcé, en tout cas de l'emprise du patriarcat. Et lorsque les égalités sont à peu près atteintes en matière de revenus, il est plus facile de se séparer. Homo economicus devient genré, c'est-à-dire qu'il peut se séparer.
Dans la vision de Gary Becker, les enfants ne sont plus un investissement, mais un bien de consommation, en réalité.
Alors, il y a les deux. Parce que, d'ailleurs, il faut toujours voir ce qu'il y a une distinction entre ce qui est un bien qu'on va comprendre entre une consommation et un investissement. Il y a le fait, et Becker le dit, que les couples ont à choisir entre acheter une voiture et faire des enfants.
Ou un bien de consommation immédiat ou différé, plus exactement.
Ouais, voilà. Et en l'espèce, il y a ces deux dimensions dans l'enfant. Lorsque vous le concevez, et au-delà de Monsieur Becker, avec de l'amour, l'exaltation de la réalisation d'un petit enfant, c'est du bonheur. Et donc, ça appartient à la fonction d'utilité. C'est comme ça que raisonnent les économistes, c'est-à-dire au bien-être des parents. Mais c'est également un investissement que plus longtemps que cela n'a jamais été le cas, l'éduquer. La fonction première de la famille, c'est l'éducation, et par la suite de passer par l'école, l'université de plus en plus, pour continuer à développer son capital humain, ce petit enfant. Donc c'est à la fois de la consommation et de l'investissement.
On a détaillé les théories de Gary Becker, je lui viens d'amont, mais est-ce que son modèle, qui semble réduire les individus à des machines calculatrices, ne fait pas abstraction de paramètres déterminants, à commencer par les émotions.
Il a beaucoup été critiqué et il l'est de plus en plus, à la fois Monsieur Becker et l'ensemble de ce qu'il a pu produire en termes de modèles, pour deux raisons. La première, c'est que en effet, les psychologues ou les poètes vont pouvoir dire « mais vous ne pouvez pas introduire, par exemple, les sentiments et l'amour dans vos modèles », ce à quoi il aurait rétorqué de manière très simple, mais pas du tout. Si vous aimez quelqu'un, c'est dans la fonction de bien-être. Donc il balayait cette critique. La critique qui peut être faite aujourd'hui, c'est qu'avec toute cette nouvelle vision de l'économie qui est l'économie comportementale, tous les économistes, même titulaires du prix Nobel désormais, comme Monsieur Taylor l'an dernier, eh bien, lui estime en effet que Monsieur Becker a ouvert la voie, mais que sa conception de la rationalité est très insuffisante ou est très limitée, comme aurait dit un autre prix Nobel d'économie, Herbert Simon. Ouais.
Pour conclure, Julien Damont, pourquoi le traité sur la famille de Gary Becker est un livre important, selon vous ?
C'est important parce que ça a beaucoup inspiré, et au-delà même d'inspirer, ça a été la création d'une tradition pour les économistes de s'intéresser à la famille, non plus seulement comme unité, comme on l'évoquait au départ de notre conversation, mais comme simplement un endroit où des homo economicus cherchent à coopérer plus ou moins habilement. Donc c'est important parce que ça a créé une quasi-discipline au sein de l'économie elle-même.
Merci beaucoup, Julien Damont, de nous avoir éclairé sur l'œuvre de Gary Becker. Le traité sur la famille de Becker est paru en anglais aux presses universitaires de Harvard, n'a pas été traduit en français. Et je renvoie les auditeurs à votre Que sais-je consacré aux politiques familiales et qui vient d'être réédité. Un grand merci.